On va donc parler maintenant de ta Transpyrénéa, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, cette grande aventure de 900 km au cœur des Pyrénées. J'ai souvent l'habitude de demander à ce stade de l'épisode à mon invité comment est née l'idée de participer à cette course épique. À toi Yvan, plutôt que comment, j'ai envie de demander pourquoi, quelle était ta quête intérieure, parce que c'est aussi ça dont il s'agit.
Ben, écoute, moi j'avais fait le GR20 en Corse en 2015, j'avais fait des ultras de 50 à 100 miles, mais jamais j'ai fait une course de ce type-là, puis c'est vraiment une séparation avec une femme fantastique que j'aimais de tout mon cœur à ce moment-là, puis on s'est séparés pour toutes les bonnes et les mauvaises raisons. Fait que j'ai eu un vide incroyable dans ma vie à ce moment-là, et une amie qui était médecin orthopédiste m'a parlé de cette course-là. Elle était française, elle connaissait Cyril Fondeville, qui ben, écoute, on peut le qualifier de visionnaire, d'hurluberlu, de fou, de génie. Qui avait parti cette course-là, et jamais un format aussi grand avait été fait. Fait que là, je me suis dit, ben écoute, j'ai besoin de quelque chose pour me nourrir, m'habiter, épurer des choses. Donc, je me suis inscrit environ 8 à 12 mois avant, et là, j'ai consacré littéralement cette année-là à me préparer à cette course-là. Moi qui n'avais aucune expérience en course d'autonomie ou sur ce format-là. Donc, ça a été vraiment une manière pour moi de passer à travers et de me consacrer à autre chose.
Est-ce que tu t'étais inscrit seul à cette course?
J'avais pas beaucoup d'amis qui voulaient s'inscrire avec moi. Déjà, quand tu dis à quelqu'un que, OK, je m'en vais faire une course, ouais, c'est bon, c'est quoi la distance? 900 bornes. Les mâchoires décrochent, hein. Fait que, tu sais, tu peux parler du Tour des Géants, des trucs de format 300 quelques kilomètres, mais tu sais, je veux dire, quand tu dépasses le 500, on dirait que l'imaginaire humain arrête de calculer. Puis là, tout le monde te regarde et ils pensent que tu leur fais une blague, là. Fait que non, j'ai pas eu d'amis qui ont voulu s'inscrire avec moi, malheureusement.
Comment est-ce qu'on se prépare à une telle course? Est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes de ta prépa? On va d'abord parler de l'aspect entraînement physique. Comment est-ce que cette préparation assez particulière a trouvé sa place dans ton quotidien? Parce qu'il faut jongler aussi, tu l'expliquais, avec notamment ta vie de famille. Enfin, c'est un impératif, le boulot, etc. Donc, ça fait pas mal de paramètres à imbriquer quand on a une telle charge pour un tel rendez-vous. Comment est-ce que tout ça s'est orchestré et mis en musique?
Ben écoute, moi j'avais trois trucs que je voulais travailler. Le premier, c'était l'aspect physique, bien sûr. Ça, c'est facile pour les gens d'approche de comprendre ça. Donc, on est au Québec. Tu as déjà vécu au Québec. Tu sais un petit peu qu'est-ce que ça a l'air. On n'a pas de haute montagne ici. Donc, moi, j'ai un centre de ski. Attachez-vous bien, les amis. Il fait 132 mètres de dénivelé. Ça, c'est tout un centre de ski. Donc, ça, c'est la montagne que j'ai le plus proche de chez moi, qui est à 45 minutes. Sinon, il faut aller très loin en Gaspésie ou sur la Côte-Nord. Donc, je me présentais au centre de ski trois fois par semaine et je faisais 5 à 7 heures de montée-descente en dessous vraiment du mont de pente ou de la piste la plus importante et avec le sac chargé à 10 kilos, 12 kilos. Puis sans tricher, là, avec tout le matos, avec l'eau, j'allais récupérer de l'eau à la source, je continuais. Les premières fois, là, tu sais, quand t'as une pente à environ à 30%, là, même si ça fait juste 132 mètres de dénivelé, là, les jambes veulent arracher, hein. Mais à la fin, là, avant la période de repos, avant la course, j'étais rendu à faire 100 à 120 km dans un centre de ski par semaine. Parce que je savais que sur les Pyrénées, c'était vraiment ceux qui ont fait le GR10 ou autre, ils le savent, c'est en dents de scie, hein. J'ai l'impression que ça fait juste monter et descendre, puis c'est des montagnes qui sont très, très, très encaissées. Donc, moi, ça a été ma meilleure préparation à ce moment-là pour ça. Donc, beaucoup de musculation, des arts martiaux, du renforcement. Ça, c'était mon premier tiers, puis le reste, c'était vraiment l'alimentation. Donc, j'ai coupé durant un an le café, le thé, le sucre, l'alcool. Donc, ça a vraiment été une épuration totale à ce niveau-là. Je mangeais hyper bien, je cuisinais tout ce que je mangeais.
Ça a été une contrainte pour toi? T'as l'impression d'avoir fait des sacrifices ou très vite, c'est devenu ta routine? Les bénéfices étaient tellement évidents que ça a été finalement très vite simple pour toi de l'accepter?
Ouais, ben là, vois-tu, on discute ensemble, je suis en train de prendre un petit café. Le café, ça a été plus dur. Une bonne bière, ça a été difficile. Mais on dirait qu'à chaque fois que tu dis non à ces choses-là dans ta préparation, tu dis oui, tu te choisis après sur les difficultés qui vont arriver durant la course. Fait que je pense que chaque privation, chacun a son niveau, chacun a ses trucs qui sont plus durs pour lui, mais chaque privation te prépare. Dans la préparation mentale aussi, il y avait le fait de sortir à l'extérieur souvent. Donc, j'ai dormi avec mon duvet, qui était un confortable 8 à 12 degrés C. J'ai dormi à moins 14 dehors sur la galerie de la maison. Donc, tu sais, passer des nuits, là, vraiment, là, comme on dit chez nous, sur la corde à linge, dans des conditions difficiles, monter la tarpe sous la pluie, sous la neige, recommencer, volontairement créer des hypothermies pour avoir froid aux mains, pour pouvoir travailler le matériel. Fait que comme je connaissais strictement rien, j'ai dit, je vais me mettre dans les pires conditions possibles. Puis au Québec, on est quand même assez chanceux pour ça. Donc, vraiment une préparation mentale. Et le dernier tiers, selon moi, était le plus important, c'est vraiment la préparation spirituelle. Fait que beaucoup de lectures, beaucoup de méditation, un ensemble de soirées passées avec des gens à discuter, de la recherche. J'ai un ami cardiologue qui m'a suivi tout le long. J'ai du support psychologique d'un ami qui était psychologue. Fait que on pense toujours que ces courses-là, c'est l'affaire d'un seul homme, mais c'est complètement faux. Tu sais, on voit la médaille, c'est la pointe de l'iceberg. Donc, tu sais, quand tu dis que tu es entouré d'une équipe de spécialistes qui se sont dédiés à toi, parce que, tu sais, je veux dire, c'est un choix complètement égoïste que tu as fait, là. Tu t'es dit, moi, je vais me taper une course épique comme ça. Mais il y a un ensemble de gens qui doivent se mobiliser, changer leur horaire, te donner un coup de main. Fait que pour moi, ces rencontres humaines-là, ce cheminement-là, ça a compté pour le tiers du succès dans la course, là.
Est-ce que tu as le sentiment d'avoir vécu cette période de préparation avec du doute, avec peut-être même de la crainte au quotidien, ou est-ce que tu l'as géré de façon très sereine et tu t'es toujours dit que tu faisais ce qu'il fallait pour être au rendez-vous et te donner les chances de succès, donc le doute n'avait pas sa place finalement en amont de la course?
Ben, moi je te dirais que ça a été très 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 serein. Il y a une raison pour ça, j'avais pas de sponsor, j'avais aucune pression et moi j'avais aucune intention de finir. Donc, ça a l'air bizarre dit comme ça, mais l'aventure était plus importante que la finalité de la chose. Puis même la preuve de ça, Denis Boulay, qui est un des directeurs originaux de la Diagonale des Fous que j'ai rencontré sur la course, quand on est arrivé à mi-parcours, Denis avait arrêté, puis j'ai démanché le dossard de sur mon sac, puis je suis allé pour remettre le dossard. Puis là, Denis m'a dit, ben qu'est-ce que tu fais? Ben je dis, je remets mon dossard, j'ai fini. Ben il dit, t'as mal au pied? Non. T'as mal à quelque part? Non. T'es fatigué? Non. Il dit, pourquoi t'arrêtes? Ben, j'ai l'impression d'avoir réussi ma quête. Je suis arrivé au bout de ce que je voulais faire. Je m'étais mis aucune pression. Denis, il dit, tu prends ton dossard, tu le fous sous ton sac et tu repars. Fait que, ben, c'est ça qui est arrivé. Mais j'avais aucune attente, aucune pression de finir. J'abordais ça vraiment d'un côté lâcher prise humain. Dans les moments durs, plutôt qu'essayer de pousser puis de dépasser la limite, ben, j'étais à l'écoute, je me respectais puis j'ai avancé à mon rythme. Donc, c'est une approche, encore une fois, totalement non compétitive. Thank you.